Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, émission du mercredi 15 février. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Quelle forme.
Bonjour.
Donc c'est une émission encore une fois riche en petits événements. De quoi allons-nous parler? On va commencer avec toi Marine.
Alors moi je vais vous parler des films qui sortent en DVD ce mois-ci, comme ça nous permettra de revenir sur quelques films qui étaient sortis il y a 6 mois environ au cinéma qu'on n'avait pas forcément chroniqué. Mmh. Et je vais vous parler de La Désintégration de Philippe Faucon et de En Secret, un film iranien.
Et puis comme tu parleras de La Désintégration, film qui était projeté en avant-première lors du dernier festival Cinémed, on avait pu rencontrer Philippe Faucon, donc on vous proposera une interview de 10 minutes, c'est plutôt exclusif parce que voilà, alors j'ai entendu qu'on en parlait quand même de ce film, hein, parce qu'il tombe bien en pleine période électorale, ça parle de l'intégration et forcément de La Désintégration. Et donc ce sera intéressant, ça interviendra à peu près au milieu d'émission. Et toi Manu, alors, de quoi tu vas nous parler?
Donc je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Woman de Lucky McKee, qui est sorti en fait la semaine dernière et qui est disponible d'ailleurs en bipack avec le dernier Mad Movies.
Bipack, oui. C'est-à-dire
c'est... Mad Movies avec le DVD.
Ah
en
d'accord,
fait.
Oui, okay. C'est un cadeau quoi.
Enfin un cadeau, on le paye quand même,
on
le DVD.
Il y a un petit supplément. Et puis moi, je reviendrai, alors si y a le temps, c'est le film maudit, hein, c'est Detachment de Tony Kaye. Je parlerai aussi de La vie d'une autre, premier film de Sylvie Testu avec Juliette Binoche, et ce sera l'occasion de jouer un blind test, hein, alors carrément subjectif, hein, sur les films de Juliette Binoche, parce qu'elle a quand même une longue filmographie. Et voilà, ben moi je me suis concentré que sur les films que j'aime, que j'apprécie. Donc à vous de les trouver, chers auditeurs. Et puis on va commencer avec La Dame de Fer.
Cinérama. Sur Divergence FM.
C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin, comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher.
Ah, si on laissait le solo, ce serait de la gourmandise. Voilà, donc, eh bien, c'était Renaud, on se croirait dans le top 50. Mais nous sommes toujours dans Cinérama. C'était en 85, Renaud chantait son amour des femmes, insistant sur le fait, eh bien, qu'elle ne se trouvait jamais ordonnée des génocides, qu'elle ne gueulait pas comme des veaux dans les tribunes de foot, qu'elle ne se retrouvait jamais dans ses coups bas, à part, bien sûr, Madame Thatcher, qui était alors Premier ministre britannique, farouchement anticommuniste, antisyndicaliste et partisane du libéralisme économique. La Dame de Fer a marqué durablement son époque. Alors le biopic qui lui est consacré par Phyllia Lloyd avec Meryl Streep dans le rôle de Thatcher intervient alors que l'ancienne Premier ministre est toujours en vie, victime d'une altération de la mémoire. D'ailleurs, l'action du film se déroule bien à notre époque. Alors c'est une dame seule, aidée par une domestique que nous voyons à l'écran, une femme qui semble lutter contre les apparitions de son mari, mort déjà depuis quelques temps, une femme dont on imagine mal qu'elle a gouverné le pays de main de fer. Il y a donc tout un pan affectif dans La Dame de Fer.
Je t'aime infiniment, mais jamais je ne supporterai d'être une épouse docile, qui se contente d'être jolie et muette, accrochée au bras de son mari, ou recluse et seule dans sa cuisine, qui fait la vaisselle ou passe l'aspirateur.
Eh bien, on engagera une bonne.
Tout ce qui compte pour moi, c'est que ma vie ait un sens. Plus que faire la cuisine, la vaisselle, élever les enfants, la vie d'une femme ne peut pas se réduire à cela. Il est hors de question que je meure une éponge à la main. Je ne plaisante pas, Denis. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Mais c'est pour ça que je veux me marier avec toi, ma chérie.
Alors autant Margaret n'est pas très drôle, autant son mari, lui, plaisantait volontiers. Et c'est sous des traits d'homme distrayant, autant qu'elle est rigide, qu'on le voit apparaître tel un fantôme dans la demeure de la vieille dame. On passe la moitié du temps au présent, avec donc son mari fantôme, avec l'une de ses filles, alors qu'elle semble plutôt réclamer son fils vivant en Afrique du Sud. Et puis l'autre partie du temps, eh bien, on navigue à vue dans le passé, en revenant sur son parcours politique et en premier lieu son éducation dans une famille conservatrice très politisée. Alors on revoit les grandes dates, les premières élections, son combat contre les hommes qui la jugent comme une femme avant de la voir comme l'animal politique redoutable qu'elle deviendra. Une dureté au combat qui lui ouvrira les portes du 10 Downing Street de 1979 à 1990. 11 années qui furent un cauchemar pour les Anglais marqués à gauche, tant elle appliqua une politique de rigueur, coupant les robinets et demandant toujours plus d'efforts à ses électeurs, suivant une conception de la société ultra-libérale. Alors cet aspect est esquissé dans le film, tout comme est montré sa bataille contre l'IRA ou ses relations avec les États-Unis. Mais si nous avons ces déclarations politiques, alors nous n'avons pas le contre-champ. On est prié de regarder un vieux Ken Loach ou de dénicher les premiers films de Mike Leigh pour sentir ce que pouvait être la condition du peuple britannique sous Thatcher. On peut même regarder le Hunger de Steve McQueen qui prend pour sujet la grève de la faim des membres de l'IRA. Le mouvement indépendantiste irlandais, qui d'ailleurs en a fait baver à la Dame de Fer et qui le leur a bien rendu. Alors, en restant une bonne partie du temps dans l'appartement d'une Maggie vieillissante, la réalisatrice Phyllida Lloyd ne fait donc passer en revue que des moments clés de la politique thatcherienne, sans s'occuper de dresser un portrait de la société de cette époque. Elle l'esquisse tout juste. Parmi les moments clés, il y a bien sûr l'intervention au Malouine, car si normalement donc seuls les hommes font la guerre, c'est aussi le cas de Madame Thatcher, qui avec ce conflit qui se déroule au bout du monde, se fera réélire une bonne guerre, on vous dit, et ça repart.
Le secrétaire d'État américain est arrivé, Madame le Premier ministre.
Donc vous avez l'intention d'entrer en guerre pour défendre ces îles? Elles sont à des milliers de kilomètres de distance, elles abritent une poignée de citoyens, elles n'ont aucune importance politique ou économique, sauf votre respect.
C'était le cas de Hawaï. N'est-ce pas, général?
Je vous demande pardon.
Le 7 décembre 41, le jour où les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, les Américains se sont-ils gentiment adressés au général Tojo dans le but de négocier une solution à l'amiable? Ont-ils choisi de tourner le dos à leurs concitoyens sous prétexte que ce territoire se trouve à des milliers de kilomètres au large des États-Unis? Non. Non et non. Là où les questions de principe sont en jeu, on ne peut pas envisager de négociation.
Mais Margaret, si vous me permettez une remarque, pour qui comme moi a combattu au front?
Si vous me permettez une remarque, général, j'ai livré bataille à chaque minute de chaque jour de mon existence, et par le passé, on m'a sous-estimé plus souvent qu'à mon tour. Aujourd'hui encore, cela semble être le cas de ces hommes. Mais une chose est sûre, ça leur coûtera cher. Pardon, j'en oublie mes manières. Le thé, Alexandre, je vous le sers comment? Avec ou sans lait?
Alors on a entendu hein, en fond cette musique qui n'est pas forcément intéressante dans ce genre de scène. Alors cette vision d'une femme forte qui s'oppose aux États-Unis, il soutenait la dictature argentine, qui n'hésite pas à faire la guerre pendant que ses électeurs se serrent la ceinture, contraste avec la vieille dame dont la mémoire est vacillante et qui vit sa maladie tant bien que mal dans son grand appartement. Retirée de la vie politique, on a l'impression que toute sa dureté a disparu et nous ferait presque perdre de vue qu'elle a été une femme détestée pour sa fermeté. Alors on aurait peut-être aimé donc que Phyllida Lloyd s'attache davantage à la femme politique qu'à la personne de Maggie, qu'elle rende davantage compte des oppositions entre Thatcher et ses opposants en Angleterre comme ailleurs et qu'elle souligne les conséquences de sa politique de rigueur. Il n'empêche que ce biopic avec une Meryl Streep impeccable permet de faire au moins connaissance avec le personnage. Alors il y a quand même aussi bien forcément de mauvaises manières, hein, cette musique, les violons tout à l'heure dans le premier extrait. Et puis, violon toujours un peu plus atténué, sur des scènes qui sont, normalement des scènes historiques hein, où elle s'oppose, enfin où elle.
Donc il y a du violon pendant 2 heures en fait.
Il y a pas mal de musique, oui, effectivement, qui accompagne le spectateur.
Il y a quelques jours, un signal radio a été émis de je ne sais où. Ces mots ont été envoyés en boucle.
Il faut que tu me sortes ta quéquette, Dale.
Mais c'est pas possible. Non.
Salut les bourges, Mamie Nova a des soucis.
T'es Steve Jobs? Est-ce que t'es le milliardaire qui possède Apple? Non. Oh, ok, dans ce cas, t'as pas le droit de porter des New Balance. C'est défendu.
Qu'est-ce que c'est moche.
C'est ça, va te faire niquer, enculé.
Wait, no fuck my wife.
Vous entendez les mots que vous dites des fois? C'est pas vrai, qui parle comme ça?
Mega upload, load. M-E-G-A, upload to me today, send me a file. Mega upload.
Supprimez-les tous jusqu'au dernier.
Voilà, un petit jingle DVD pour annoncer donc la chronique avec quelques extraits, même uniquement des extraits de films dont je vais vous parler. Alors, donc si vous avez fait votre deuil de Mega Upload et que vous comptez réinvestir dans ces étranges disques argentés que l'on utilisait dans les années 2000 et que l'on appelait DVD, eh bien le mois de février va vous combler avec des dizaines de sorties prévues. Donc l'occasion de revenir sur quelques films qui étaient en salle il y a peu mais dont nous n'avions pas forcément parlé. Et on commence de suite avec « Comment tuer son boss » de Seth Gordon.
La plupart des tueurs sont des débutants. Si vous voulez réussir le meurtre parfait, il faut que ça ait l'air d'un accident. Si vous le faites intelligemment, vous n'avez même pas besoin d'être sur place.
Comment on fait pour maquiller trois accidents?
Traquez vos proies, faites marcher vos cerveaux, trouvez l'endroit où elles vivent, découvrez leurs habitudes, ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles aiment manger. Écoutez, même si vous le faites à la perfection, si vous avez des mobiles, la popo, c'est la police.
Police.
Vous fera porter le chapeau.
On a tous les trois des mobiles évidents pour tuer nos patrons, alors ça ne va pas fonctionner, c'est du n'importe quoi.
Pourquoi vous ne tuez pas chacun le boss d'un des autres?
Vous? En fait, c'est une bonne idée.
Pas mal.
Oui. Oui, comme dans L'Inconnu du Nord Express de Hitchcock.
J'ai pas vu le film.
Il y a Danny DeVito dans ce film, il est marrant celui-là.
Le fameux film d'Alfred Hitchcock avec Danny DeVito.
C'est celui-là qui...
L'abruti.
Une comédie américaine qui met en scène, comme c'est la tendance depuis quelques années, des personnages de losers aidés de dialogues décalés et de situations absurdes. Réellement hilarant, et vous noterez l'adjectif que j'en vois pas très souvent, Comment tuer son boss se sert d'un scénario volontairement stupide pour mettre en scène une tripotée d'acteurs du moment, tous réunis pour se moquer d'eux-mêmes. On retrouvera ainsi Jennifer Aniston en infomane hystérique, Colin Farrell en cocaïnomane dont la beaufrie n'a d'égal que la calvitie, et Kevin Spacey en sadique égocentré. Ces trois-là sont les boss en question que leurs subalternes épuisés par leur harcèlement moral décident d'abattre. L'occasion que le tout Hollywood en prenne pour son grade, y compris Jamie Foxx, que l'on entendait dans l'extrait, qui tourne ici en dérision ses éternels rôles de blague de service, et même Ryan Gosling qui fait dans le film une apparition totalement involontaire. C'est sans doute l'une des meilleures comédies américaines de l'année et je vous la conseille vivement. Contrairement à Crazy Stupid Love, une comédie également américaine mais qui n'est ni très audacieuse ni très drôle, avec Steve Carell marié à Julianne Moore depuis 20 ans qui se retrouve divorcé du jour au lendemain.
25 ans de mariage et tu n'as rien à dire? Voilà, je te le dis, je t'ai trompé.
C'est une tête épage, descends de voiture.
Si j'en suis arrivée là, c'est que forcément... Oh non, Carl!
Vous allez divorcer?
Ouais.
Amy t'a entendu pleurer aux toilettes, on a tous cru que t'avais un cancer.
Oh, ah bon, j'aime mieux ça.
C'est juste mon couple qui casse.
Heureusement, lui qui est devenu un quadragénaire au taux de sexapile proche de zéro, va rencontrer son mentor en la personne de Ryan Gosling.
Salut, je vous offre un verre. On va ailleurs?
Oui.
Vous faites quoi tout à l'heure?
J'en sais rien.
Moi je sais. Il y a plein de jolies femmes dans ce bar, mais j'arrive pas à détacher mon regard de vous.
Il faut qu'on rentre.
Je vais chercher la voiture. Vous avez bu? Je vais conduire.
Hé, hey, bonjour. Est-ce que t'aurais quelques tuyaux à me donner?
Ta femme est allée voir ailleurs parce que tu as cessé de jouer ton rôle d'homme. T'as eu combien de femmes dans ta vie exactement?
Sexuellement?
Non, comme adversaire en breakdance.
Le film, on s'en doute, réutilise des clichés vus et revus, mais peut se targuer d'avoir un excellent rythme et des acteurs au talent complémentaire. On le classera dans la catégorie des films à grignoter le dimanche soir avec votre copine qui préférera sans doute regarder une comédie romantique plutôt que J'ai rencontré le diable. Hey, transition toute en délicatesse avec donc J'ai rencontré le diable, un film coréen de Kim Ji-woon, un des meilleurs réalisateurs asiatiques du moment. Après le thriller fantastique Deux Sœurs et l'excellent Le Bon, la Brute et le Cinglé, Kim Ji-woon revient avec un polar pour lequel tous les qualificatifs de violence auraient un goût d'euphémisme. Un flic dont la femme se fait tuer par un psychopathe décide de le traquer jusqu'à en devenir pire que lui. Au cours de ce jeu de massacre qui joue sur le principe de l'agresseur agressé, vous trouverez forcément votre bonheur, que vous soyez plutôt porté sur la décapitation de femmes enceintes, l'arrachage de mâchoires à main nue ou l'émasculation au marteau. Ça, c'est mon préféré. Je dois préciser que les effets spéciaux sont si efficaces que malgré une bonne résistance à l'image, j'ai pas vraiment réussi à tout regarder. Alors, seul inconvénient, le film a quelque peu des airs d'assemblage commercial, lorsque l'on sait qu'il réunit justement Lee Byung-hun, l'acteur de Bittersweet Life, et Choi Min-sik, l'acteur de All Boy, autant dire les deux principales figures de l'actuel cinéma coréen et qui sont de vraies stars en Asie. Mais ça reste quand même un bon film.
Tu l'as vu, Manu, toi ?
Oui, je l'ai vu, oui.
Mais non, tu as été sensible aux images.
J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal, mais peut-être un peu trop extrême, en fait. C'est que...
Ah oui, quand même, ça va loin.
Ouais, ça manque de dialogue, quoi, on va dire. Pendant 2 heures.
Je te parle avec mon marteau.
C'est un petit peu ça. Et mon tournevis aussi. D'accord. Aussi, l'histoire avec des tournevis. Okay, okay. Voilà.
Eh bien, merci Marine. Deuxième partie.
Et la suite
partie,
tout à l'heure.
Oui, après.
Cinérama. Je vous demande une seconde, le temps d'installer le prochain film.
Et Manu, c'est à toi avec le cinéma, bis ou pas loin ?
Pas loin. Enfin, pas vraiment, en fait. Hein. C'est un peu comme The Ward. Mm. Donc, The Woman, qui aussi est encore un inédit, qui sort donc qui est sorti la semaine dernière en DVD. Et la première chose, c'est la question qui brûle aux lèvres de tous les amateurs au sujet de ce film, c'est laquelle ? Le parfum de petit scandale qui entoure le nouveau film de Lucky McKee est-il justifié ? Et surtout, rend-il au fond justice à un cinéaste qui n'a jamais frappé par son esprit racoleur, mais plutôt par une vision personnelle de l'horreur ? En fait, il s'est passé un truc, c'est au festival de Sundance, un spectateur s'est même enfui en courant de la salle, en s'écriant « Ce n'est pas humain, le film est dégradant pour les femmes, vous êtes malade, ce n'est pas de l'art, Sundance devrait avoir honte ». La vidéo circule un peu partout, en fait. Et je crois que le spectateur, il court après le cinéaste. Hein, il va le frapper.
Avec un marteau.
Voilà. Donc, à vérifier sur Internet, je crois que sur YouTube, on la trouve. Voilà.
Salt. Fed the dogs yet? Are things at school, kiddo?
What kind of cookie do you want?
I want a little man.
Did you catch anything?
You'll see.
This is our project. And it's a secret.
What are we gonna do with her?
We're gonna help her. We're gonna train her, civilize her, free her from herself, from her baser instincts. Everyone, keep your distance.
Are you sure you're not overextending?
Have you ever known me to let things get out of hand?
Do we really get to keep her?
We do.
The Woman se traîne donc de festival en festival une réputation de film trash, extrême, misogyne, ultra-violent, qui malheureusement a fini par le desservir. Car en réduisant finalement le long métrage au rang de pure trash movie, au même titre que les peu ragoûtants Serbian Film ou Human Centipede, la presse et le public se privent d'un coup d'un film infiniment plus subtil que ses apparents ne laissent supposer. Au préalable, en fait, il s'agit d'une collaboration entre un écrivain culte, James Cretchum, qui ferait passer Clive Barker pour un romancier à l'eau de rose, et McKee. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Red, avant que McKee ne soit évincé du tournage. La fusion entre les deux artistes est par ailleurs assez curieuse. Ils ont commencé par écrire le scénario, puis chacun de leur côté en ont tiré respectivement un film et un roman. Donc l'histoire de The Woman, elle est simple, hein, voire très très basique. C'est la femme, donc éponyme du titre, la woman en question, c'est une sauvage jeune qui vit donc dans la forêt comme au temps de la préhistoire. D'où vient-elle? Que fait-elle? Comment est-ce possible? Autant de questions qui n'intéressent pas le réalisateur. La véritable nature du film est ailleurs. Cette femme, elle va se faire capturer par une famille de la middle class américaine, noyautée par un père tyrannique et déséquilibré. Attachée au fond d'une cave, elle va subir les pires sévices et tortures sous le prétexte fallacieux de la civiliser. En apparence, cette famille paraît normale, attachée à des valeurs simples et traditionnelles, sans paraître fanatique. Entre une belle maison, une voiture confortable, un grand jardin et une situation financière plus qu'honorable, rien ne semble troubler le bonheur de cette famille. Mais dès que l'on gratte le vernis, la vraie nature de ces pseudo-bourgeois saute aux yeux. Le père, qui apparaît de plus en plus cinglé, n'est pas d'ailleurs le seul fautif de cette situation. La passivité de la mère exaspère. Le malaise de la fille est trop insistant pour être anodin. Le fils, poussé par une vénération pour son père, se vautre dans la perversion. En fait, le malaise s'installe doucement, lentement, jusqu'à devenir insupportable. Et là, je préfère prévenir les spectateurs, les 10 dernières minutes sont proprement insoutenables. Elles prennent une tournure assez inattendue et révèlent le véritable sens du film, encore plus sombre que qu'on pouvait le soupçonner au départ. Mais bon, spoiler, je n'en dirai pas plus. Achetez le film, louez-le ou trouvez un autre moyen pour vous le procurer.
Tu sais ce que ton fils a fait ? Est-ce que tu veux savoir ?
J'en suis pas tout à fait sûr.
Il pensait qu'il n'y avait personne à la maison. Alors il est allé à la cave voir la fille. Et là, Chris, il l'a déshabillée. Elle était nue devant lui. Et il l'a touchée. Et il s'est touché lui-même.
Dans cette séquence, qu'on vient d'entendre, la mère découvre donc que son fils est bien le digne héritier de son père.
De son père.
Ah, oui, oui. Donc tourné avec un budget très réduit, The Woman tire parti de cette contrainte. La mise en scène, assez épurée, elle séduit vraiment par son style naturaliste. En refusant donc tout artifice inutile, McKee traite un sujet périlleux avec une grande honnêteté intellectuelle. En confrontant donc une femme sauvage avec des êtres soi-disant civilisés, il interroge notre regard sur le rapport nature-culture. La violence primaire de la woman en question ne sera jamais aussi insoutenable que celle pensée et analysée d'un individu ou d'un groupe d'individus. Au nom d'une volonté de dressage, le brave père de famille a perdu toute notion morale et humaine. La sauvageonne n'est plus qu'un tas de chair soumise à une série d'expériences humiliantes. Sur un sujet proche d'ailleurs, c'est assez curieux, François Truffaut avait tiré un très beau film, L'enfant sauvage, d'après les travaux du professeur Itard. Et là, on voit deux regards complètement opposés sur un sujet qui est finalement très similaire. Mais le regard impitoyable de McKee s'oppose vraiment à celui humaniste de Truffaut. McKee traite finalement d'une forme de fascisme, de l'exploitation de l'homme par l'homme, sans se vautrer dans des théories fumeuses. Donc entre le pur trip d'exploitation d'une violence graphique assez inouïe et le film d'auteur radical, The Woman est une œuvre assez atypique, une expérience éprouvante qui n'est pas sans rappeler le cinéma d'Haneke, sans le côté un peu donneur de leçons. J'ai pensé aussi à un autre film qui s'appelait, je ne sais pas si vous l'avez vu, Canine, un film grec de Yorgos Lanthimos.
Qui avait gagné le Cinémède il y a 2 ans, hein,
oui, oui, je crois.
Ou 3 ans.
Il est sorti, oui, en 2009, il est sorti. Où on voyait un père qui éduquait ses enfants comme des chiens, en fait. Mais bon, à la différence du film grec qui possédait une dimension un peu absurde et onirique, celui de McKee agit comme un vrai cauchemar sur pellicule. Pas vraiment, pas très aimable et du coup pas facile à vendre. Il devait sortir en salle et les distributeurs ont eu peur en fait.
Ouais, ça tient à la représentation de la violence qui est plutôt frontale, j'imagine, contrairement à Canine.
Oui, le McKee refuse la litote. C'est lorsque on arrache des bouts de chair, on arrache des bouts de chair. Hein. Il n'y a pas de hors-champ, tout est montré. Il y a une scène de viol qui n'est pas. On ne voit pas grand-chose, mais elle est filmée en plan séquence, assez long et c'est assez dérangeant. Voilà, donc avis aux amateurs de curiosité, d'objets filmiques bizarres. Et dernière chose, contrairement à ce qui a été dit, le film est vraiment un plaidoyer plutôt pro-féministe. Et comme tous les films de McKee, il a toujours mis en scène des femmes dans ses films assez fortes, à qui il arrive des choses curieuses, notamment un épisode des Master of Horrors où deux lesbiennes vont se transformer en insectes.
D'accord. Donc, personnage curieux, ce McKee.
Et une sorte de nouveau Cronenberg pour moi. Enfin, vraiment, ouais. C'est un cinéaste vraiment intéressant.
Mais dans la marge, quand même. On est d'accord.
Pour le moment.
Oui. Donc, disponible en DVD.
Disponible en DVD chez Emilia.
Et puis en bipack. Voilà. Donc,
avec le dernier Mad Movies.
Le dernier Mad Movies.
Cinérama sur Divergence FM.
Mais pourquoi les acteurs se mettent-ils à faire des films ? Pour ressembler à Clint Eastwood, qui lui s'est occupé de la chose sur le tard, ou peut-être John Cassavetes, qui avait plus de goût pour la réalisation que pour le jeu, mais sans avoir le sou, ou aller comme Takeshi Kitano, qui peut faire le pitre à la télé dans un sous-bénil et passer une casquette de réalisateur la minute d'après pour pondre un moment de cinéma. Après Benoît Magimel, Jalil Lasper ou encore Richard Berry, allons-y, Alain Chabat ou même Danny Boone, voici le premier film de Sylvie Testu, La vie d'une autre, avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Alors disons-le tout de suite, le scénario n'est pas original, c'est l'adaptation d'un roman homonyme de Frédéric Degelt, mais le mot adaptation prend son sens puisque Sylvie Testu a traficoté le scénario. Histoire simple, il s'agit de Marie, donc interprétée par Juliette Binoche, une provinciale qui s'est mariée il y a 15 ans avec un beau garçon, Mathieu Kassovitz, et dont le père est un riche homme d'affaires. Mais Marie, 15 ans après cette première rencontre estivale sur une plage, va se réveiller dans le grand lit d'un appartement parisien. Elle ne comprend rien, elle est devenue amnésique, au point qu'elle ne se rappelle pas qui elle est, ce qu'elle a vraiment fait, mais découvre assez vite qu'elle a plutôt réussi matériellement. Alors dans le roman, Marie est passive et s'ennuie de son quotidien. Dans le film, elle décide de mettre de la gaieté dans ce morne quotidien hyper réglé. Alors on ne saura pas quelle était la première version du scénario qu'a d'abord refusé Juliette Binoche. On va donc s'attacher à celui qui a emballé l'actrice.
Maman, je n'arrive pas à ouvrir le miel.
Hein ? C'est quoi cette connerie ?
Tu connais la date d'aujourd'hui ?
C'est ton anniversaire.
On dirait. L'année
2011.
J'ai quand même pas dormi 15 ans. C'est moi. Où est ton père ?
À son atelier.
T'as pas du travail ?
Ah si, si, si.
Ah ça.
Et moi je fais quoi ?
Du bureau comme grand-père.
Faire development across the channel.
On peut rembobiner ?
De quoi ?
La télé ?
Tu vas arrêter tes conneries ? Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule ?
Garde ça en tête pour ton divorce.
Qui a demandé le divorce ?
Mais t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'arrive ?
Ça va pas, Marie ?
Ça fait 5 ans qu'on se déchire, Marie. Maintenant, tu m'aimes ?
I am not bitter.
Je comprends plus rien, Paul.
Now you stand here different than before.
Comment j'ai pu changer autant ?
Génial
de la Terre. T'as encore rien vu.
Si l'histoire d'Hibernatus est plutôt inattendue et fantaisiste et pourrait nous emmener sur le terrain de la comédie, c'est plutôt un mélange de drame et d'une pointe de comédie auquel nous sommes confrontés. Alors le drame, ce n'est pas d'avoir oublié 15 ans de sa vie, non, le drame c'est de voir que l'homme qu'elle aimait il y a 15 ans et qu'on avait quitté tout sourire sur la plage est maintenant un type froid qui a du mal à aligner trois phrases. Marie va essayer de lutter contre cette situation et récupérer son mari qu'elle aime toujours, à l'évidence, ce qui n'était plus le cas dans le passé dont elle a hérité. Alors avec ça, elle a un fiston dont elle ne se souvient ni du prénom et pas plus de la date d'anniversaire. Elle le découvre avec nous et je ne sais pas comment a été fait le casting, mais ce garçon nous rend assez mal à l'aise à tel point qu'on ne sait pas si c'est un enfant ou un robot Sony dernier cri. Mais on comprend dans le dossier de presse que l'enfant en question refusait les embrassades et tous les témoignages d'affection. Donc voilà, le résultat est visible à l'écran. Alors où était le producteur à ce moment-là ? Ça reste un mystère. Alors pour son premier film, Sylvie Testu fait le minimum avec une histoire qui n'est pas facile à faire passer. On sent très bien qu'elle voulait donner le rôle à Juliette Binoche en lui demandant précisément de faire sa Binoche, partant dans des fous rires parfois inexplicables, en ayant cette petite flamme dans les yeux, cette fantaisie soudaine. Mais Juliette Binoche semble grossir le trait et prend toute la place. Alors quand on aime Juliette Binoche, on peut se laisser attendrir, comme je l'ai d'ailleurs été. Mais quand on aime les films bien ficelés, c'est un peu plus délicat. Alors même s'il y a des décalages savoureux qui gonflent la comédie, hein, quand on perd 15 ans de sa vie, le monde est devenu bien trop moderne, donc les surprises sont quotidiennes. Donc si la comédie, ça passe à peu près, la partie dramatique, elle, s'enlise. Kassovitz met un temps fou à parler, mais ça n'est pas pour autant qu'au moment où il daigne ouvrir enfin la bouche pour dire ces trois phrases, eh bien qu'on est en phase avec le couple qui s'est déchiré. Donc La vie d'une autre laisse un goût amer. D'un côté, on a Juliette Binoche qui est le personnage principal et désiré par sa réalisatrice et qui met du peps dans un quotidien morne. D'un autre côté, on a un film bancal qui nous apprend juste à nous méfier du temps qui passe, du boulot qui abrutit ou du confort qui endort. C'est à choisir. Ça passe à peu près partout dans les cinémas.
Pas au Diago.
Pas au Diago, mais ça passe au Gaumont. Ça aurait pu. Hein, ça aurait
dans
pu
les passer. Grandes salles.
Ça aurait pu passer au Diago. Alors maintenant, nous allons jouer au blind test avec donc cette actrice Juliette Binoche, une actrice qui a commencé sa carrière au cinéma en 83 dans Liberty Belle de Pascal Canet, et donc elle joue actuellement dans deux films à l'écran, donc La vie d'une autre de Testu et puis Elle que tu as chroniqué la semaine dernière et qui bien lui passe au Diagonale. Connue internationalement, alors c'est pour la comparer à Dujardin, elle a déjà eu un BAFTA et un Oscar. Alors, par contre, c'est en tant que second rôle féminin. Et puis, elle a aussi eu le prix d'interprétation à Cannes, et ça, tout dernièrement. Et elle a été nommée 8 fois au César, et figurez-vous qu'elle en a eu combien ? Vous avez une idée ?
8 fois au César ?
8 fois au César, quand même. En tant que meilleure artiste.
Elle n'en a pas eu ?
Meilleure actrice. Si, elle
si.
En a eu.
8
Non, elle n'en a eu qu'un.
Bon, d'accord.
Voilà. Et les films qui ont le mieux marché hein, pour Juliette Binoche, c'est évidemment Le Hussard sur le Toit. C'est Le Patient anglais et puis le film de Cédric Clapiche, Paris. Alors, on va écouter le premier extrait. Alors, je précise, c'est un blind test vraiment très, très subjectif. Je ne cherche pas à baliser la carrière de Juliette Binoche, mais simplement mettre en avant les films que j'ai beaucoup appréciés. Et je vais commencer avec un des plus beaux films de la Terre.
Oh, c'est bouillant. Oh là là. Oh, le trottoir, il est bouillant. Comme à New York. À midi, l'été. C'est incroyable.
Mais oui, t'as pas lu les journaux. C'est le passage de la comète de Halley. À 10 000 km de la Terre, cette nuit, qui provoque cette chaleur épouvantable. Ça va durer encore quelques jours.
La comète de Halley ? Allez.
Mais si, Anna. Une grosse boule de neige et de poussière, c'était prévu.
C'est incroyable.
Non, c'est scientifique. Prends mon lit.
Alors, elle n'a pas la même voix. Hein.
Ouais, eh oui, mais elle était toute jeune. Hein. Alors Manu, tu as trouvé, c'est
Mauvais sang.
Mauvais sang, film de Léo Scarrax, deuxième film en 86.
Deuxième ? Il me semble qu'il y avait Rendez-vous avant.
Non, mais je parle du film de Carax. Pour Carax. C'était après Boy Meets Girl. Film toujours disponible en DVD. Deuxième extrait.
C'est quoi ce cirque ? Tu t'attends pas à ce que je te prenne au sérieux, hein ?
Non, je m'y attends pas. Georges,
oui.
Dis-moi, t'as déjà rendu quelqu'un heureux ? Allez, réponds. Réponds ! Y a-t-il une seule personne que t'aies rendue heureuse dans ta vie ?
Non.
Alors, c'est mieux de le voir. Hein. Ils sont, le couple est en train de faire ses courses tout bêtement dans une petite supérette. Et c'est voilà. Et donc, ils ont caché. Ce dialogue improbable.
C'est pas caché.
C'est pas caché, mais tu brûles, dire. Puisque c'est l'autre film de...
Code inconnu, alors.
Voilà, c'est Code inconnu. Film de Michael Haneke, sorti en 2000. Un film sur la difficulté... Enfin, le code inconnu, c'est cette difficulté de communiquer, de trouver le code de l'autre pour... rentrer en communication avec lui. Un film très formel. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être un peu plus réflexif que sensible. Mais là, il me semblait que dans cette scène, que j'apprécie particulièrement, il était plutôt sensible. Troisième extrait.
Tu viens ?
Arrête, Polo, ça va pas recommencer. Je vais pas coucher avec toi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on habite ensemble, tous les deux.
Pour te voir baiser par d'autres mecs ? Hein ? Non, merci, mais pour qui tu me prends, Nina ?
Je baiserai avec personne. Je te donne ma parole. Je t'aime, Polo. T'es la seule personne que j'aime. Je voudrais vivre avec toi, pas ici, mais c'est trop cher. Chez moi. On partagera le loyer, on partagera tout. Si t'es près de moi, je me sentirais bien. Il faut que tu me crois, Polo. Il faut que tu me crois. Il faut que tu aies confiance en moi.
Alors, elle propose à Polo de vivre une espèce de communauté, parce qu'elle vient, ça va être son futur colocataire.
Non, mais je veux dire, c'est qui l'acteur?
Ah, je sais pas, mais je connaissais pas. Par contre, elle était amoureuse de Lambert Wilson, qui malheureusement s'est suicidé. Film de 1985 d'André Téchiné.
Ah, c'est Rendez-vous.
C'est Rendez-vous, voilà. Mm-hmm. Qui a été palmé, je crois, Cannes.
Je sais plus.
Mais bon, voilà. Plus. En tout cas, c'était un des premiers films, pour le coup, un peu grand public, dans lequel jouait Juliette Binoche. Voilà, 85. Quatrième extrait.
C'est très bien ce que vous avez fait pour moi. Mais vous voyez, je suis une femme comme une autre. Je transpire, je tousse, j'ai des caries. Je vais pas vous manquer. Vous en êtes sûrement rendu compte. N'oubliez pas de claquer la porte en sortant.
Marine, c'est à toi.
Non, je sais pas.
Ah bah si, tu sais.
Si, c'était ça, là. C'était bleu ou blanc ou
c'est
rouge.
Bleu. C'est bleu, oui. Ça y est. Film de 93 de Krzysztof Kieślowski, qu'on nomme trois couleurs bleues puisqu'il y a eu blanc et rouge. Film autour de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Et le bleu, et donc, c'était la liberté avec, un énorme rôle pour Juliette Binoche, une beauté formelle dans ce film incroyable, un grand souvenir. Dernier extrait, et ça va être une blague, donc l'occasion dans Cinérama de se détendre un peu.
Une histoire drôle de l'homme heureux.
Comment?
C'est deux types dans un café. Ils sont assez mélancoliques, alors ils se demandent s'ils baissent assez souvent pour être heureux. Alors il y a le premier qui dit moi je fais l'amour une fois toutes les deux semaines. Et puis le deuxième il dit moi une fois par mois. Ça leur paraît pas beaucoup. Et puis au comptoir, il y a un troisième bonhomme qui boit son café tout seul. Oh, il y a un grand sourire aux lèvres, la banane. Alors, le type se demande pourquoi il a l'air si heureux. Alors, un peu gêné, il lui pose la question sur combien de fois il fait l'amour. Alors, le troisième bonhomme, tout jovial, répond, moi, monsieur. Mais je fais l'amour une fois tous les trois semaines. Non, tous les trois ans. Comment, quoi? Une fois tous les trois ans? Mais alors, pourquoi vous parlez si heureux, monsieur? Et le troisième bonhomme, il répond, parce que c'est ce soir. Parce que c'est ce soir. Oh oui, j'ai mal derrière la tête.
Parce que c'est ce soir.
Et parce que c'est ce soir.
Voilà, une grosse blague.
Vous êtes sur Rire et Chanson.
Voilà, donc, une belle scène d'un film qui a coûté excessivement cher en production.
Les Amants du Pont-Neuf.
Les Amants du Pont-Neuf, voilà. Un autre film de Léos Carax, puisque...
Il me semblait pas que c'était aussi drôle, ce film.
Ah, il n'est pas forcément drôle, mais en tout cas...
On est tombé sur le passage.
Il y a plein de petits passages, au moins légers. Il peut y avoir des passages légers chez Carax, et surtout des passages poétiques, effectivement. Carax, qui va d'ailleurs sortir prochainement son nouveau film au mois d'avril. Voilà, c'était le blind test spécial Juliette Binoche, et on est un peu à la bourre, donc...
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Et on enchaîne avec En secret. Alors, en Iran, de nos jours, et sous le régime autoritaire que l'on connaît, deux jeunes filles, Atafe et Shirin, découvrent la vie à travers les soirées clandestines de Téhéran. La famille de Atafe est rétive à la religion et à la morale obligatoire, hormis son frère, Mehran, qui ne tarde pas à se faire enrôler par la brigade des mœurs. Décidant de mettre toute sa famille au pas, y compris sa sœur rebelle, il observe la vie de chacun en installant des caméras dans sa propre maison. À force d'épier la vie des autres, il découvre que Atafe et Shirin entretiennent une relation qui dépasse la simple amitié, rêvant de partir à l'étranger pour vivre leur amour et découvrir la liberté. Amoureux lui aussi de Shirin, Mehran décide de les remettre coûte que coûte dans le droit chemin. Alors loin de la réalisation austère de Une séparation, où des prises de vue brouillonnent des chats persans, deux autres films iraniens récents et notables, En secret soigne ses images et baigne dans une ambiance entre sensualité et violente critique des mœurs. On frôle parfois l'érotisme cheap et l'on tombe un peu dans le saphisme de mauvais goût, au point de se demander si l'on ne se trouverait pas devant un film américain. Ce qui est le cas, du moins à moitié, étant donné que la réalisatrice s'est faite produire aux États-Unis, où le film a triomphé au Sundance Festival. Se jouant des interdictions et de la censure pour parvenir à tourner, le film démontre encore une fois que la dureté du régime iranien est proportionnelle aux potentialités des artistes qui y vivent. Mariam Keshavarz est l'une des dernières sorties de ce vivier de talent qui ne peut pour l'instant éclore qu'à l'étranger, sans pour autant perdre son discours engagé et ses sujets fortement ancrés dans l'actuelle situation politique. Une fois encore, la peinture faite de la jeunesse iranienne est émouvante de naturel et vibrante d'espoir, sans se déparer d'un certain défaitisme. À travers une multitude de personnages, les parents progressistes mais peu enclins à se battre, les ex-révolutionnaires résignés, les amis gays qui veulent doubler Harvey Milk en persan, ou les agents de la police des mœurs, c'est la peinture de toute une société qui sert de contexte au triangle amoureux central. En racontant une histoire universelle au sein d'un pays si particulier, Mariam Keshavarz réussit un très bon film à la photographie soignée, poignant et parfaitement interprété. Donc je vous le conseille, ça passe au Diago, c'est vraiment très bien. Et puis, il n'y a pas qu'en Iran que les extrémismes religieux s'insinuent et s'imposent, puisque La Désintégration, le nouveau film de Philippe Faucon, montre également que la France n'est pas exempte des dangers du fanatisme. C'est la banlieue de Lille qui, pour une fois, prête sa grisaille et ses pierres rouges à ce drame social. Et on notera d'ailleurs qu'il est assez judicieux de déplacer le problème hors des murs de Paris, pour une fois. Et trois jeunes maghrébins, Ali, Nasser, d'origine maghrébine, nuance importante, Ali, Nasser et Hamza se heurtent à des problèmes évidents d'intégration lorsqu'ils tentent d'entrer dans le monde du travail. Enfants d'immigrés, ils se rendent compte que toutes les nationalités françaises ne semblent pas se valoir et que leurs origines ne leur donnent pas les mêmes chances qu'aux autres. Jamel, un intégriste musulman, n'aura aucun mal à récupérer leur frustration au profit de sa cause et va parvenir à les endoctriner jusqu'à leur faire haïr cette société qui les rejette. La Désintégration, baptisée à la base Kamikaze au pluriel, a été l'un des temps forts du dernier Cinémède. En abordant le sujet délicat du terrorisme avec un ton intimiste, alors qu'il est souvent synonyme d'action au cinéma, Philippe Faucon réalise un film sincère et profond, de par son habileté à explorer les origines du mal. Supposé ne pas sortir pour des problèmes de distribution, le film est même montré dans une version écourtée, puisque le manque de financement a empêché de l'achever de la manière souhaitée. Refusé par de nombreux producteurs et se retrouvant au point mort après le festival du cinéma méditerranéen, c'est son passage à la Mostra qui a finalement permis au film de sortir sur les écrans français. Les acteurs, en particulier Rachid Debbouze, qui est bien le frère de celui auquel vous pensez, sont excellents, grâce également à la participation de nombreux comédiens non professionnels. La Désintégration, c'est un film dense, brutal, sans fioritures, le genre de film qui met une claque, sans avoir besoin d'être outrancier ou provocateur, et qui parvient à saisir ce qui pique dans l'air du temps pour le transcender par le cinéma.
Et c'est un film, malgré les 1h20, qui prend son temps. Il y a quelques personnages comme ça qu'on a le temps de suivre patiemment. Alors, on a rencontré Philippe Faucon, c'était lors du Cinémède. Il nous a bien confirmé qu'effectivement, il y avait des problèmes de financement pour son film. Donc, c'est pour ça qu'il a coupé certaines scènes. Donc, on va l'écouter. On va passer 10 minutes avec lui et il va bien nous parler un peu du scénario et ce qu'il a inspiré.
Il laisse tomber, quand tu t'appelles Rachida, l'ordinateur est placé au lignon rouge. Il connaît pas.
C'est pas un projet qui est venu de moi. C'est un projet qui m'a été proposé par deux jeunes producteurs. C'était pratiquement leur premier film de long métrage. Avant ça, ils avaient fait un documentaire dont on a un peu parlé qui s'appelle Banta Bilili, dont vous avez peut-être entendu parler. Et ils m'ont proposé ce scénario qui était pas très bon, pas très bien écrit, mais que j'ai accepté parce que ça rejoignait un intérêt, je crois, que j'avais pour les questions qu'aborde le film, parce que moi, je m'étais intéressé de mon côté, par exemple, à l'histoire de Zakaria Moussaoui, qui a été accusé d'être, et qui a revendiqué d'être le 20e pirate de l'air parmi les gens qui ont attaqué le World Trade Center. Donc je m'étais intéressé à cette histoire à l'époque, et à d'autres aussi, moins médiatisés, moins connus. Et à propos de Zakaria Moussaoui, je m'étais intéressé à lui en particulier parce que Je me rappelle que j'avais vu des photos de lui très jeune, et c'était des photos d'un jeune garçon souriant sur les photos, plein de vie, qui avait une vie comme celle de tous les garçons de son âge, qui sortaient, qui fréquentaient des filles, dont le meilleur ami était un jeune garçon juif. Et c'est un garçon qui a eu ensuite une histoire qui a un peu échappé à son entourage. Moi, j'avais lu le livre de sa mère et le livre de son frère, qui a eu une histoire qui a un peu échappé à son entourage parce que, voilà, il a éprouvé une déception très grande par rapport à ce qu'il attendait au niveau de ses espoirs quant à sa vie professionnelle, etc. Il a éprouvé une déception comme ça, assez importante par rapport à la France. Il est parti en Angleterre à la suite de ses études, ne trouvant rien ici. Et en Angleterre, il s'est comme ça un petit peu éloigné de sa famille. Il a à un moment cessé de... Il a donné des nouvelles très espacées. Et son frère et sa mère ont appris par la suite qu'il avait commencé à fréquenter une mosquée radicale à Londres. Et donc voilà, il a eu le parcours que l'on sait aujourd'hui. Et dans les dernières images qu'on a de lui, effectivement, on a un personnage très différent de la façon dont il apparaît quand il était jeune. C'est-à-dire on a un personnage avec un regard vide, avec un discours de robot, avec un discours très violent, très, très antisémite, enfin du moins très judéophobe. Voilà, donc c'est ce qui m'avait un petit peu, comment dire, c'est ce sur quoi j'avais commencé à me pencher concernant cette histoire. C'est-à-dire, j'avais commencé à me demander comment c'était arrivé, un peu de la même façon que ses proches. Comment ça avait pu se produire?
À 20 ans, Zacharias ne s'intéresse guère à l'islam. Étudiant en BTS à Perpignan, il ne laisse à ses amis de l'époque qu'un seul souvenir, celui d'un joyeux fêtard.
Pour les gens qui ont connu Zacharias Moussaoui, quelqu'un qui était apprécié, avec qui, je répète, on avait de franches parties de rigolade, quelqu'un, on se disait, bon, mais voilà, c'est, voilà quelqu'un qui va symboliser un peu l'intégration.
Figure de l'intégration ou de la dissimulation.
Je veux faire un film de cinéma, je ne veux pas faire un dossier d'enquête pour, je ne sais pas quoi, le Nouvel Observateur ou Envoyé Spécial. Ou, je veux pas faire de sensationnalisme, je ne veux pas faire de jugement, comment dire, asséné comme ça sur les choses. Je veux donner un peu à percevoir quelque chose et puis et surtout à laisser le spectateur libre de sa réaction. Donc je ne cherche pas à l'enfermer dans un truc où on lui dit voilà ce qu'il faut déduire de tout ça et penser de tout ça. Voilà, j'essaye de mettre ensemble des aperçus, des impressions sur quelque chose qui se passe, qui est un peu dans l'air aujourd'hui, et puis pour donner chair, donner corps à des choses. J'apprends rien à personne, je pense pas. On sait que ce genre de recrutement, ça se fait à partir de telles situations, de telles fragilités, de tels désespoirs, etc. Mais là, j'essaie de dans un film de donner corps et chair à ces personnages pour permettre à un spectateur de se les représenter davantage. C'est un avertissement d'une situation qui porte en germe des risques, des dangers, voilà. Et pourquoi et pour quelles raisons, voilà. En tout cas, l'avertissement, c'est certainement pas « attention, il faut se méfier de tout ce qui, tout ce qui porte un nom bizarre » et voilà.
Tu fais quoi? Tu fais des études?
Ouais, j'ai passé un bac pro.
Quel bac?
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés.
Ça débouche sur quoi, ça?
Enfin, de la maintenance préventive ou du diagnostic de panne sur les systèmes mécaniques automatisés.
Et ça te plaît?
Ça va. Je suis en formation. On reste plus qu'à trouver un stage maintenant.
Et tu trouves?
Ouais, je cherche.
Il y a quelque chose qui se passe insidieusement et qui fait que le personnage de plus en plus s'isole. Et isolé, de la même façon que ça a dû arriver à ce garçon là dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire son frère raconte qu'il s'est aperçu en allant sur place à Londres qu'effectivement on avait commencé par le couper de toute autre influence, de l'influence de ses parents, lui disant « tes parents sont dans l'erreur », etc. Donc on l'a enfermé dans un discours à sens unique. C'est la même chose que des captations sectaires, c'est exactement la même chose, c'est du même ordre. C'est-à-dire les gens qu'on essaie comme ça de manipuler, la première chose à faire, c'est de les couper de toute autre influence. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Petit à petit, le personnage comme ça s'enferme, s'éloigne des siens parce qu'on les discrédite. Et puis petit à petit, il a cette dérive qui dans le film va très loin, qui dans la réalité... ne va pas toujours forcément aussi loin, mais bon, la fin du film a aussi un sens métaphorique pour moi. C'est en même temps que ça peut avoir aussi un sens très réaliste, quoi. C'est quelque chose qui reste possible.
Ici, ça va péter. Je le sens, moi. J'ai grandi ici, je connais les jeunes. Avec leurs profs, ils sont irrespectueux. Il y a trop de décalage, ils les croient plus. Moi, ils me croient. Parce que je les écoute. Il n'y a personne d'autre qui le fait. On les dévalorise toujours, on leur envoie toujours une mauvaise image d'eux.
Par rapport à ce personnage, pour le construire, on a beaucoup travaillé et on s'est beaucoup documenté. Alors moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises quelqu'un qui s'appelle Mohamed Sifaoui, qui est quelqu'un qui a beaucoup... qui est un journaliste, qui est un peu... comment dire, qui est quelqu'un d'un peu contesté, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Voilà, j'ai rencontré des jeunes qui avaient eu des tentations de cet ordre-là à un moment, qui en étaient revenus. Qui me parlaient de la façon dont ça s'était passé. Je me suis beaucoup documenté. J'ai rencontré des policiers, sur le net aussi. On trouve pas mal de propagande islamique, radicale, et on voit bien sur quoi ça s'appuie et pourquoi ça peut être dangereux. C'est parce que c'est une chose que dit Mohamed Sifaoui. Dans le discours qu'ont ces gens pour approcher les jeunes, comme c'est dit à un moment dans le film, ils savent mélanger le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses par rapport auxquelles on ne peut pas leur dire c'est pas vrai. Et des choses par rapport auxquelles des gens qui ont... des intentions, de contrecarrer ce discours, des intentions républicaines, etc., ne peuvent pas dire à ces jeunes, c'est pas vrai. Quand ils leur disent, regarde ce qui se passe, regarde comment tu vis, vous n'avez accès à rien, vous n'avez droit à rien, etc., c'est pas toujours simple de leur dire, mais non, c'est pas vrai. Y a un garçon qui m'en parlait très bien en disant, mais c'est très très simple la façon dont ils procèdent. Ils vont dans un quartier complètement ghettoisé, à l'abandon, et ils disent, ils approchent quelqu'un en lui disant, regarde. Ce qui se passe. Regarde l'œuvre de la France, le travail de la France. Ta sœur se prostitue, ton frère se drogue, tes amis tiennent le mur, vous n'avez droit à rien, soi-disant vous êtes des Français. Et c'est pas faux. Bon, mais ça, ils savent le présenter et le mélanger à d'autres choses qui sont des choses en général extrêmement dangereuses.
Ils ont peut-être eu besoin de vos parents un moment pour ramasser des poubelles et tenir des marteaux-piqueurs. Mais à partir du moment où vous aspirez à faire autre chose, là, ils veulent plus de vous. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils pensent que vous valez moins qu'eux.
Voilà, le discours des recruteurs à l'œuvre dans La Désintégration. Un film de Philippe Faucon donc, qui est projeté au Diagonale.
Et qui est très bien. C'est vraiment un des meilleurs films moi, que j'ai vu au cinéma de cette année.
Oui,
donc,
effectivement.
Allez le voir.
Cinérama. Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Qu'on oublie tout ce qu'on a appris et vu avec le film Entre les murs de Laurent Cantet, palmé à Cannes, où l'on reste quasiment tout le film dans une classe pour y voir ce qui s'y trame. Si Detachment, film de Tony Kaye à qui l'on doit American History X, se déroule bien en partie dans un lycée, il prend un autre parti pris. Alors c'est l'histoire d'Henri Barthes, professeur remplaçant de littérature. Il est assigné pendant 3 semaines dans un lycée difficile de la banlieue new-yorkaise. Dans une classe où on le tutoie, lui balance son sac, où l'arrogance est de mise. Mais comme il en a vu d'autres, ça ne lui fait même pas peur et ça serait presque son moteur. Il fait partie de ces professeurs qui se battent là où il y a de l'enjeu, des élèves à sauver. Alors bien conscient que si l'école n'apprend pas tout, mieux vaut être éduqué qu'être un robot écervelé. Détaché de sa fonction, de son existence presque, il est à un moment de sa vie où les questions s'entrechoquent sur sa place à lui, celle du prof, celle de l'école et celle des parents qui n'ont pas été forcément présents pour lui. On le comprend très vite au moyen de flashbacks au grain Super 8, eh bien qu'il a eu une enfance particulière. Il a beau être charmant, c'est quand même Adrien Brody, ça se voit sur son visage, il ne respire pas le bonheur. Alors on est avec lui qui se confie parfois avec, à la caméra en plan fixe, mais il faut bien admettre que la mise en scène est plutôt nerveuse avec un petit côté arty, un point qu'on oublie de faire, une caméra agitée, une lumière qui parfois fait défaut. On a avec Detachment un style qui crève un peu trop l'écran et qui fait penser à une série télévisée qui voudrait captiver son spectateur. Alors loin de se concentrer sur son personnage principal, Tony Kay nous dresse le portrait d'une partie de la salle des profs, celui qui approche la retraite et qui, ouf, a gardé son sens de l'humour, un autre terrorisé par sa classe, la principale à qui on promet la porte faute de résultats, une CPE qui explose d'impuissance devant une énième élève qui se fout royalement de ce qu'on peut lui apprendre et à qui elle promet un avenir misérable. Des portraits d'élèves aussi, ou de jeunes, il en a choisi deux, tant qu'à faire extrême, deux filles qui vont croiser notre beau professeur. Alors on est loin du rêve éveillé du cercle des poètes disparus, hein. Il faut dire aussi qu'on n'est pas dans le même lycée, et pas à la même époque. Donc Detachment est profondément sombre, c'est autant une prise de conscience existentielle qu'un constat sur une société qui perd ses priorités. Parler de l'école revient à parler des générations, des enfants évidemment, mais aussi des parents qui signent des temps, ne viennent plus aux réunions parents-prof. Detachment n'a rien d'un film social, trop maniéré pour l'être et trop commenté pour laisser un espace aux spectateurs. Et même si certaines séquences sont fortes, de par ce qu'elles révèlent, il y a quelques moments dramatiques trop surlignés qui peut-être gâchent l'effet d'ensemble. Mais il me semble que Detachment bénéficie d'un bon bouche à oreille et il est encore projeté au cinéma Diagonal.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On va terminer avec l'agenda et une grande soirée pour fêter sa première année depuis son ouverture le 12 février 2011. Le cinéma Nestor Burma organise sa première nuit de cinéma. Et quel film ont-ils choisi? Eh bien, dans la nuit de samedi à dimanche, vous pourrez voir l'intégrale des films de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, le 1, le 2, le 3. Eh oui, quand même, avec McFly et l'autre, c'est qui?
L'acteur?
Non, le professeur, c'est...
Professeur,
c'est Doc, voilà. Doc, ouais. Merci Bruno. Ensuite, alors il y a très peu de choses, hein, c'est les vacances. Hein. Dès qu'il y a les vacances, les gens partent au ski et n'ont pas forcément envie de rester ici à regarder du cinéma. Mais le mardi 21 février à 20h au Diagonal, ce sera La Bête humaine de Jean Renoir. C'est une séance présentée par Kate Griffith, auteur de Émile Zola and the Artistry of Adaptation, dans le cadre des journées d'études autour de l'adaptation, nanana, organisée voilà, par Montpellier 3. Et le mercredi 22 février, on en parle tout de suite, c'est à 18h, c'est une avant-première au Diagonal de Mémoire d'ouvrier de Gilles Perret. Et c'est une séance suivie d'un débat en présence du réalisateur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent pour cette semaine.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama. Manu, la semaine prochaine, tu ne seras pas là, mais on va enregistrer une chronique. Voilà, donc tu seras quand même là. Et puis Marine, tu seras bien là.
Oui, et tout de suite après Cinérama, vous retrouvez 24 notes secondes consacrées cette semaine à John Milius, qui est, d'après ce que tu m'as dit, Manu, un gros facho.
Oui, là, ça va être bien. C'est un cinéaste belliciste, voilà.
Cinérama.
Oh, merci Bruno.
Merci Bruno.
Il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.